Weekend is the weekend, and it's sunny in the park. Well, I stay here with my beer and fish and chips till it gets dark. I got a lot of homework, but homework you can't wait. I never start my homework till it's already too late. My parents say think about your future, and my teachers say the same, but it's hard when there's a basketball game at the park. It's 1998 and everybody's saying,
Aaron, you're gonna be a lawyer someday.
Musique qui nous donne envie de rouler en décapotable par ce beau soleil et de s'amuser les cheveux au vent. C'était la formation australienne de Cat Empire avec la pièce The Car Song.
Gala Artistes 2018, Magali Lépine-Blondeau et Charles Lafortune s'illustrent. L'actrice de District 31 et l'animateur de La Voix sont élus personnalités de l'année. Alors, je vais vous lire l'article de Manon Dumais qui fait un retour sur cette soirée d'hier, dimanche soir, en direct du Théâtre Denise Pelletier sur les ondes de TVA. S'est déroulée la 33e édition d'Artistes. Marie-Pierre Morin, première femme à tenir la barre de ce gala en 16 ans, et Jean-Philippe Dion, qui en connaît bien sur le tapis rouge et les coulisses, ont animé en toute convivialité cette célébration glamour couronnant les vedettes préférées du public. Alors, il manquait le sur, d'où mon hésitation. Placé sous le signe de l'amour, le gala Artiste, le premier de l'ère post-Salvaille, ce qui a changé la donne dans quelques catégories, devait faire la part belle aux femmes. Sont apparues Martine Sinclair et Marie-Ève Janvier pour chanter « Il y a de l'amour dans l'air » et « Je t'aime », tandis que les artistes s'envoyaient les uns aux autres du « love », entre guillemets. Est alors entré en scène Patrice Michaud pour interpréter son succès « Mécanique générale ». S'est en suivi une distribution de barbe à papa rose et une pléthore d'artistes dont Alex Nevsky et Yama pour chanter l'amour dans les deux langues. Même les animateurs ont poussé la note en compagnie de Gilles Girard des Classelles. Or, même si le thème de la soirée était celui de l'égalité, et qu'Ariane Moffat y est allée d'une interprétation sentie de « What About Us » de Pink lors de la présentation des finalistes de la catégorie « Personnalité féminine » dans les 8 catégories non genrées, totalisant la moitié des catégories, une seule femme a été couronnée, soit Sarah Jeanne Labrosse pour « Le Chalet », choisie pour la 3e année de suite meilleure artiste d'émission jeunesse. Élue personnalité féminine et masculine de l'année, Magali Lépine-Blondeau et Charles Lafortune ont aussi respectivement remporté l'artiste du meilleur rôle féminin dans une série dramatique annuelle et l'artiste du meilleur animateur d'émission de variété ou de divertissement. Pas préparée et un peu chaude en fin de gala. L'actrice a remercié sa mère qui lui a fait connaître son premier coup de foudre en l'amenant au théâtre de Chaillot à Paris. Il s'agissait des deux premiers prix artistes pour l'interprète de l'inoubliable sergente détective Nadine Legrand, tandis que l'animateur en avait déjà 8 à son actif, dont 3 artistes de la personnalité masculine de l'année. Faisant référence à une jeune femme trisomique ayant perdu son emploi, Charles Lafortune a profité de l'occasion pour saluer les entreprises qui embauchent les gens différents. N'ayez pas peur de la différence. Détenteur de 2 prix Métrostar 2002-2003 et fort de 3 mises en nomination, l'acteur Gildor Roy s'est également imposé à 2 reprises dans le cœur du public en repartant avec les trophées du meilleur rôle masculin dans une comédie, Lâcher prise, et du meilleur rôle masculin dans une série dramatique annuelle, District 31. « Ça n'a aucun sens », a-t-il dit. « Bravo aux autres acteurs, c'est impressionnant de vous battre. » Comme dirait Marc Messier, « Merci de penser aux vieux. » En tête des nominations avec la série quotidienne de Luc Dionne, la percutante série Fugueuse a vu son actrice étoile, Ludivine Redding, remporter l'artiste du meilleur rôle féminin dans une série dramatique saisonnière. Tremblante d'émotion, elle a dédié son prix à toutes les Fanny, filles et garçons. Et a demandé que l'on cesse de juger et de traiter les prostituées comme des criminels. Il s'agissait d'une première nomination aux artistes pour la jeune comédienne. Outre l'interprète de Fanny, Pierre-Luc Fonck, Fabien Cloutier et Sophie Desmarais étaient les rares artistes à s'y retrouver pour la première fois en nomination. L'excellente série L'imposteur a permis à Marc-André Grondin de remporter une seconde fois le prix du meilleur rôle masculin dans une série dramatique saisonnière. Fête des mères oblige, l'interprète de Youri Philippe ému à saluer sa mère qui a fait beaucoup de sacrifices pour qu'il se rende où il est maintenant et qui a passé une année difficile. Rappelons que le père de l'acteur, l'animateur Denis Grondin, est mort l'an dernier. D'autres artistes ont aussi salué leur mère, dont Gino Chouinard, qui a promis de lui remettre sa statuette, et Sarah-Jeanne Labrosse, qui s'est adressée à la sienne comme elle s'adresse aux jeunes. « Hey, aie confiance en toi !» Par ailleurs, les choristes de Céline Dion ont interprété « Toutes les mamas », chanson popularisée par la regrettée Morane. Si la gloire peut être éphémère, certaines personnalités parviennent à s'installer pour longtemps dans le cœur du public. Ainsi, malgré les mauvaises critiques dans tout cas, qui revient l'an prochain, la bien-aimée Guylaine Tremblay a réussi à mettre le grappin sur le prix du meilleur rôle féminin dans une comédie. Ce prix s'ajoute à la collection de 21 Métrostar artistes de l'actrice, sacrée 10 fois personnalité de l'année. « Je ne m'y attendais pas », a-t-elle avoué, touchée avant de saluer sa mère, « la femme la plus drôle que je connais ». Pour la 18e fois, Pierre Bruneau, TVA Nouvelles, a récolté le prix du meilleur animateur de bulletin de nouvelles. Merci pour tant d'années d'amour, de confiance et de fidélité. Sans surprise, Gino Chouinard, salut bonjour, a mis la main sur son 11e prix artiste du meilleur animateur d'émission de service, le premier trempé dans le chocolat. Guy Lepage, tout le monde en parle, n'est pas en reste puisqu'il a remporté son 8e trophée dans la catégorie meilleur animateur de magazine culturel et talk show. L'animateur couronné deux fois personnalité de l'année possède au total 12 Métrostar artistes. Déjà, d'être en nomination, c'est un privilège. De gagner, c'est un petit gâteau de plus. Gildor, lui, il a eu la crème fouettée, a dit ce fier natif de Hochelaga-Maisonneuve. Pour une 7e année de suite, Dave Morissette, ou Morissette plutôt, qui anime Dave Morissette en direct et destination Coupe Stanley, est reparti avec l'artiste du meilleur animateur d'émission de sport. Animateur des deux précédentes éditions de la soirée artiste, détenteur de 4 prix artistes, Guy Jodoin s'est distingué en récoltant le trophée du meilleur animateur d'émission de jeu. L'animateur a profité de l'occasion pour annoncer la 8e saison de ce jeu 100% québécois. L'ayant remporté en 2011 et 2012, Charles Tisser, Découverte, s'est vu remettre le prix du meilleur animateur d'émission d'affaires publiques. À défaut de réellement innover, le gala artiste s'est démarqué une fois de plus par la fidélité de son public. Visiblement soulagé du bon déroulement de cette soirée sans scandale ni grand malaise, à part le segment Tam Tam Cam, Marie-Pierre Morin et Jean-Philippe Dion ont conclu la soirée en s'écriant « On s'est donné de l'amour et on était consentants ». Dans la presse critique du disque Sainte Victoire de Clara Luciani, nouvelle variation sur un même thème, thème écrit comme le verbe aimer. Directement ou indirectement, Clara Luciani a été associée à Nouvelle Vague, Raphaël, Biolay, La Femme, Hologramme, Necfeu, avant quoi elle avait grandi dans un environnement familial très propice à la musique. Puisqu'elle écrit des chansons depuis l'âge de 11 ans, elle peaufine ses identités chansonnières, vocales et musicales. À l'écoute de cet album solo, on sent ici son long chemin, ce long chemin parcouru par cette femme dont les thèmes relatifs à la chose amoureuse et le présent au féminin dominent l'écriture, écrit Alain Brunet. Sombre, gris, lumineux ou clairs-obscurs, les épisodes de l'amour ici mis en strophe demeurent universels. Luciani assume pleinement ses influences venues d'hier ou d'avant-hier. Ses musiques sont à la fois tributaires de la chanson française, de la culture indie, du rock ou de la synth pop. La réalisation et les arrangements de cet opus ont été confiés à Ambroise Willum, Benjamin Lebeau et Yuxek. Ses habillages sonores confèrent à la chanteuse une personnalité authentique. Musique et écriture sont ici assez substantielles, fines et élégantes pour être admises dans l'aréopage des nouvelles forces de la francophonie pop. On y va avec un extrait de Sainte Victoire, Clara Luciani.
Don't
Hélène nous le disait plus tôt, c'est un extrait de l'album Sainte Victoire, la chanteuse Clara Luciani et On ne meurt pas d'amour.
Libre, nouvelle de dernière heure, c'est dans la presse plus. Le chanteur Locke Merville devrait plaider coupable ce matin à une accusation d'exploitation sexuelle. Son procès devait s'amorcer lundi pour une dizaine de jours, mais la procureure de la Couronne, maître Anne Gauvin, a annoncé à la Cour que le procès n'aurait finalement pas lieu en raison du plaidoyer de culpabilité de l'accusé. Locke Merville et une autre femme devraient ensuite témoigner pendant les observations sur la peine à imposer lundi matin. L'homme de 50 ans portait un sac à dos à son arrivée au palais de justice de Montréal. Il est défendu par maître Philippe Larochelle. Le riz et le blé à l'origine des traits de caractère. La culture du riz implique traditionnellement plus de collaboration entre les fermiers que la culture du blé à cause de l'ampleur de l'irrigation, dis-je bien, nécessaire pour le riz. Des chercheurs chinois et américains viennent de prouver que les traits de caractère liés au riz et au blé, la collaboration et l'individualisme se transmettent sur plusieurs générations dans les villes modernes. C'est Mathieu Perrault qui signe le texte. Seul dans un café. Les chercheurs ont examiné 9000 clients de 256 cafés dans 6 grandes villes chinoises, dont Pékin, Shanghai et Hong Kong. Dans les deux villes correspondant à la zone traditionnelle de culture du blé en Chine, dans le nord du pays, les clients avaient de 10 à 30 plus tendance à être attablés seuls plutôt qu'en groupe. Nous avons choisi les cafés parce que c'est un lieu fréquenté par la classe moyenne supérieure en Chine, expliquait à la fin avril, en conférence de presse, Thomas Talem, de l'Université de Chicago, auteur principal de l'étude publiée dans la revue Science Advances. A priori, fréquenter un café n'a rien à voir avec l'agriculture. Ça veut dire que si des traits de caractère plus individualistes ou communautaires s'y retrouvent, c'est une bonne preuve de la transmission intergénérationnelle des particularités culturelles agraires. Les chercheurs ont vérifié si les participants involontaires à l'étude étaient nés dans la même région, ce qui s'est avéré dans 90 % des cas. L'épreuve de la chaise. L'autre expérience a été de placer une chaise de manière à entraver le passage dans une douzaine de cafés des 6 villes étudiées. Les cultures de type communautaire encouragent l'adaptation aux contraintes, dit M. Talem. Nous avons observé que la proportion de gens qui déplacent la chaise pour avoir plus de place pour passer est deux fois plus grande dans les régions individualistes où se cultive le blé par rapport aux gens des 4 villes de la culture du riz. Il était possible de passer sans déplacer la chaise, mais il fallait se mettre de côté sur la pointe des pieds. L'expérience qui a été faite seulement dans des cafés Starbucks par souci d'uniformité a donné lieu à des moments cocasses. Dans un des cafés à Pékin, il y avait un employé zélé qui passait le balai toutes les 20 minutes. Chaque fois, il poussait la chaise que j'avais mise en travers du passage. À un certain moment, il a commencé à soupçonner que j'étais celui qui mettait sans cesse la chaise sur son chemin. Quelle est l'utilité d'une telle étude? Les traits de caractère plus communautaires ou individualistes ont des impacts en psychologie clinique, dit M. Talem. On sait que dans les cultures plus communautaires, une bonne manière de diminuer son stress est de s'adapter aux contraintes, alors que dans les cultures individualistes, il faut les contrôler. Cela signifie que la culture dominante d'une société a des impacts sur le type de psychothérapie le plus efficace. Employés et autres pays, les chercheurs ont fait plusieurs contre-vérifications pour étayer leur thèse. Les employés des cafés avaient beaucoup plus tendance à déplacer les chaises que les clients, 24 % contre 4 % dit l'économiste de Chicago. Mais ici aussi, il y avait un écart entre les employés des villes de la culture du blé ou du riz. C'est pareil pour les différences entre les hommes et les femmes qui ont moins tendance à déplacer une chaise qui obstrue leur chemin. Les chercheurs ont fait la même expérience aux États-Unis et au Japon. Les Américains déplacent une chaise encombrante dans une proportion à peine supérieure à celle des villes de la culture du blé en Chine, alors qu'au Japon, les résultats sont semblables à ceux des villes de la culture du riz en Chine. Les résultats n'étaient pas différents pour Hong Kong, où la culture du riz n'est plus répandue depuis belle lurette. Les legs agraires persistent dans le monde moderne, dit M. Talem. M. Talem et ses collègues de l'Université normale de Pékin et de l'Université de Virginie veulent maintenant faire les mêmes expériences en Inde. La division entre la culture du blé et du riz en Inde est entre l'Est et l'Ouest, plutôt qu'entre le Nord et le Sud en Chine, dit M. Talem. On va pouvoir vérifier que la température ne joue pas un rôle dans ces traits de caractère. Alors voilà pour l'article signé Mathieu Perrault, le riz et le blé à l'origine des traits de caractère. Auto-vedette Laurent Paquin, la Bentley de son idole. Laurent Paquin est l'un des plus brillants humoristes au Québec. Après 2 années d'absence, il est de retour sur les planches ce printemps pour présenter son 4e one-man show, Déplaire, qu'il enverra en tournée tout l'été aux quatre coins du Québec. Il a aussi animé plusieurs galas au cours des dernières années. Laurent Paquin en a fait du chemin depuis l'époque où il se rendait à sa station de radio de Trois-Rivières au volant de sa Corolla 89. C'est Mathias Brunet qui a interviewé Laurent Paquin sur son univers concernant les voitures. « La voiture, donc, qui a marqué mon enfance. Je me souviens, dit Laurent Paquin, d'une Chrysler Newport 1981 qui était notre première voiture neuve. J'étais bien impressionné. Elle coûtait 8 100 $, ce qui me semblait énorme à l'époque. Cette voiture me paraissait immense de mes yeux d'enfant. Il y avait tellement d'espace que lorsque mes parents nous trouvaient trop tannants, ils pouvaient nous mettre à genoux dans l'auto, comme quand on allait en punition dans le coin. Ma première voiture, une Corolla 1989 que m'avait donnée ma mère. Elle devait avoir 150 000 km au compteur. Ma mère devait me la vendre au départ, puis elle m'a dit « T'as pas une scène, je vais te la donner ». Elle m'a permis de commencer à gagner ma vie et d'être autonome. Je n'avais effectivement pas une scène. Je venais de trouver du travail dans une radio de Trois-Rivières et je devais voyager tous les jours pour m'y rendre. Juste pour ça, c'était une de mes voitures préférées dans mon souvenir. Je l'ai quittée après plus de 325 000 km. J'aurais pu la garder, mais je gagnais bien ma vie et je voulais acheter du neuf. Peut-être que si ma mère avait su comment ma carrière allait décoller, elle m'aurait demandé de la payer plus tard. Ma pire voiture. Après ma Corolla, je n'ai eu que des voitures neuves, alors pas de citron. Mais à 26-27 ans, j'ai loué une petite Fiat lors d'un voyage en Europe en 1999 et c'est là que j'ai appris à conduire manuel dans les rues de Bruxelles. Pas l'idéal, mettons. J'étais stressée comme jamais. Je n'arrêtais pas d'étouffer sur tous les coins de rue. J'ai appris que les Européens étaient vite sur le klaxon. Je me suis finalement rendu compte que je démarrais toujours en troisième vitesse. On a quand même traversé la France au complet en partant de la Belgique jusqu'à Marseille. On dormait dans les auberges de jeunesse, les campings. On a même dormi une fois dans la voiture car il commençait à faire noir et on n'avait rien trouvé pour dormir. Ça n'était pas l'idéal car il s'agissait du modèle le plus compact des Fiat, mais ce sont de bons souvenirs quand même. La voiture de mes rêves, je ne sais pas trop. J'aimerais quelque chose d'avant-gardiste, une voiture complètement électrique ou à l'hydrogène. Ou sinon, une vieille bagnole que je sortirais seulement l'été, genre une vieille Mustang décapotable. Ou mieux encore, la Bentley d'Yvon Deschamps. Yvon avait la Bentley de son idole, Charlie Chaplin. Alors moi, j'achèterais de mon idole, Yvon Deschamps. Oui, belle journée, comme le disait un petit peu plus tôt Jean-Sébastien Laliberté, pour se promener en décapotable, pourquoi pas en Bentley décapotable. Hein? Alors, il faudra appeler Yvon Deschamps pour ça. Merci Jean-Sébastien à la mise en onde et au choix musical. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Ici Hélène Denis. Merci d'avoir été donc présent au rendez-vous de Le Quotidien des quotidiens. Je vous retrouve à l'émission Les Par Actualités. À bientôt.